Bonjour la Méditerranée, bienvenue comme chaque semaine dans Cantara, le magazine d'actualité des deux rives de notre Méditerranée. Au micro, Thomas Brunelli de France Bleu RCFM Ajaccio et en direct de la capitale égyptienne, Dina Adelmeguide de Radio Le Caire. Bonjour Dina.
Bonjour Thomas, bonjour tout le monde, bonjour la Méditerranée.
Allez Dina, tu nous présentes le sommaire de ce nouveau numéro de Cantara.
La France a élu son nouveau président de la République, Emmanuel Macron, succède à François Hollande. Le score du second tour est sans appel, 66% pour Macron et 34% pour Marine Le Pen. Retour sur ce scrutin avec le politologue Andrea Fazi. Parmi les premières réactions après cette élection, celle du roi du Maroc, vous entendez Jawed Khardoudi, le président de l'Institut des Relations Internationales. La paix et le dialogue interreligieux, c'était le message du pape François qui était en visite en Égypte. Une visite réussie qui confirme le rapprochement entre le Saint-Siège et Lazare.
En Espagne, suite et fin du projet Castor, le creusement d'une cavité sous-marine au large des côtes espagnoles pour stocker le gaz naturel ont entraîné des secousses sismiques. Pour ces raisons, le projet est stoppé définitivement. Un hommage pour terminer ce Cantara. La Tunisie vient de perdre un géant de la pensée théologique. Mohamed Talbi était l'un des penseurs les plus rigoureux et les plus audacieux de la réforme de l'islam. Il avait été l'invité de Cantara et de Maya Dassili. Nous proposons d'entendre un extrait de cet entretien.
Cantara est le fruit d'une large coopération avec Algechien 3, Linda Bouadma, France Bleu, RCFM, Pierre Marie, Thomas Brunelli et Pierre-Louis Alessandri, chaîne Interaba, Nadira Belkhoutout et Mohamed Chapoui, Radio Tunis, chaîne internationale, Maya Dassili, Radio Le Caire, Dina Abdelmeguide, Radio Extérieure d'Espagne, Imen Wenzar.
Et nous débutons ce Cantara avec une chanson corse. Elle est extraite du dernier album du groupe Bocevento. Elle s'intitule « Tiwego la mia bandera, je te vois, mon beau drapeau ».
Tiwego la mia bandera, il lo fiore che si spanna, ogni istante rausole, ogni gioco di campana, si per me l'alto vanale, a mia strada, mio fontana, o la mia bandera, o la mia bandera, Tiwego la mia bandera. In ogni fiume i corre, in lusa braccia un mare, in aianna i albore, si per me a stella ardente guida gli ume sembulore, o la mia bandera. Per me a scorza ardita i arburu sembra rito, o la mia bandera, o la mia bandera. Ti vego la mia bandera, il pianto, il ugello, il amamo chi si voglia, la risa di uzzidello, si la mia antica collana, mia brama, mio
Donc la France a élu son nouveau président de la République, Macron 66%, Le Pen 34%. La France a choisi Emmanuel Macron, il est âgé de 39 ans, il est le plus jeune chef d'État des grandes nations de ce monde. Il a largement battu la candidate du Front National. Un sursaut républicain est donc intervenu pour ce second tour qui a permis d'écarter la candidate d'extrême droite. En Corse, la tendance s'est inversée. Au premier tour, Marine Le Pen était arrivée en tête. Dimanche dernier, c'est Emmanuel Macron qu'il emporte de justesse, certes, 51,5 contre 48,5%. Analyse du scrutin avec le politologue Andrea Fazi au micro de Pierre-Louis Alessandri.
La victoire, large victoire hier d'Emmanuel Macron ne signifie absolument pas qu'il remportera facilement une majorité aux élections législatives. Et donc le résultat pourrait être assez rapidement remis en cause. Je veux dire, tout dépendra des prochains jours, de la qualité des gens qu'il nomme au gouvernement et de la qualité de la campagne qu'ils seront menés, de la qualité des candidats qu'ils seront nommés pour les législatives.
Est-ce qu'on peut dire qu'il y a maintenant, aujourd'hui, un véritable ancrage de l'extrême droite en France ?
En tout cas, il se développe particulièrement dans certaines zones, comme tout le monde l'a vu, les zones les plus marquées par la désindustrialisation, les plus marquées par les angoisses économiques et un petit peu en retrait sur le continent, les angoisses identitaires qui encore seraient plutôt la primeur.
Est-ce que aujourd'hui on peut se réjouir de l'élection d'Emmanuel Macron et être en même temps inquiet de cette poussée du Front National? Est-ce que le danger de l'extrême droite est passé ou non?
Je ne crois pas du tout qu'il soit passé, d'autant plus que Marine Le Pen, aujourd'hui, je pense qu'on peut le dire sans crainte, a mené plutôt une mauvaise campagne. Dans le dernier mois, elle a perdu 5 points pour le premier tour. Et elle a conduit un débat de second tour assez calamiteux pour elle, qui lui a fait perdre beaucoup en crédibilité. Donc non, le potentiel de l'extrême droite est extrêmement puissant, est extrêmement fort, aussi bien sur le continent qu'en Corse en particulier.
Les partis traditionnels, vous l'avez dit au début, sont absents de ces résultats, en tout cas au niveau du deuxième tour. Est-ce que ça veut dire que Emmanuel Macron, dans son rejet de la droite et de la gauche, cette espèce de nouveauté politique est dans l'air du temps ?
Dans l'air du temps, probablement. On veut dire, ces partis ont beaucoup vieilli. Il y a une défiance politique en France qui est incroyablement élevée. 90% des Français pensent que les responsables politiques ne s'occupent pas de, ne réfléchissent pas à ce qu'ils disent, ne prennent pas en considération ce qu'ils disent. Donc, il y a une défiance énorme. Mais on voit le niveau d'abstention et de vote blanc hier montre bien qu'Emmanuel Macron ne convainc pas tout le monde en France. Loin s'en faut.
16 millions de personnes qui ne se sont pas prononcées. Est-ce que le nouveau président de la République doit en tenir compte ?
Bien sûr qu'il doit en tenir compte. Je veux dire, l'erreur majeure, Jacques Chirac a fait deux erreurs majeures dans sa vie. En 1995, il ne reprend pas avec lui les baladuriens dans son gouvernement. En 2002, surtout, il ne prend pas en compte le fait que 80% des Français, 25 millions de Français ont voté pour lui. Je veux dire, hier, Emmanuel Macron n'a eu que 20 millions de suffrages pour lui. Donc, ne pas prendre en compte les gens qui ne sont pas programmatiquement attachés à vous, mais qui ont malgré tout voté pour vous, c'est à mon sens plutôt une erreur politique.
Alors, du point de vue de la politique étrangère, est-ce que l'arrivée de Macron va améliorer certains rapports, avec notamment éventuellement l'Afrique, le Maghreb? Comment ce nouveau président peut appréhender cela?
Ben, c'est quelqu'un qui est très jeune en politique, mais qui en revanche a une belle expérience de technicien.
Il ne faut pas oublier que pendant la campagne électorale, il a déclaré que la colonisation était un crime, hein, contre l'humanité.
Oui, avec une polémique qui s'en est suivie assez peut-être significative du poids de l'histoire, surtout pour certaines catégories de la population en France. Donc oui, on peut espérer qu'ils prennent plus en considération ces thèmes-là, celui de l'aide internationale, que les États-Unis d'ailleurs semblent vouloir délaisser. C'est extrêmement important, mais dans une situation de crise économique et financière dont nous ne sommes pas sortis, il est évident que c'est d'autant plus difficile.
Sur la Méditerranée, vous pensez qu'il peut avoir des attitudes différentes de celles de François Hollande ?
Je ne crois pas. Je pense que sa priorité sera chercher à combler l'écart qui sépare aujourd'hui la France des économies qui fonctionnent le mieux en Europe, non seulement l'Allemagne, mais les Pays-Bas, le Danemark, la Suède, l'Autriche, qui sont des économies qui fonctionnent beaucoup mieux que l'économie française aujourd'hui.
Emmanuel Macron, c'est l'Europe renforcée, nouvelle, ou bien on va continuer dans la tradition ?
Disons que s'il y a une possibilité d'aboutir à une plus forte intégration, au moins de certains pays, des pays volontaires en Europe, par exemple créer un impôt européen, par exemple créer une politique économique commune au moins sur certains points, je veux dire, Emmanuel Macron sera plus enclin à s'engager dans cette voie-là que son prédécesseur, ça je le crois.
Sa jeunesse, pour terminer, est un atout pour lui ou pas ?
elle est un atout et un handicap. Il est évident que chez beaucoup d'électeurs, je crois que ça s'est particulièrement vu en Corse, je veux dire, elle apparaît comme un, elle apparaît comme un handicap en matière de charisme, de capacité à susciter l'empathie. On voit très bien que c'est un nouveau venu. Alors évidemment, ça n'a pas que des, ça n'a pas que des désavantages, mais ça peut se révéler un petit peu difficile, surtout quand on va aborder les questions internationales.
C'était le politologue Andrea Vazzi au micro de Pierre-Louis Alessandri. Et donc le constat est là, hein, Emmanuel Macron a été élu largement. C'est ce qu'attendait un peu tout le monde, hein, parce qu'il fallait absolument écarter le Front National et Marine Le Pen. Ça a été fait, le score est sans appel. Maintenant, c'est législatif, c'est la question qui est posée. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que Emmanuel Macron va ouvrir son gouvernement à la droite et à la gauche? C'est ce que n'avait pas fait Chirac en 2002 lorsqu'il avait battu le père de Marine Le Pen, Jean-Marie Le Pen. Il n'avait pas ouvert, c'était peut-être une erreur. Là, il faut peut-être attendre ce que va faire Emmanuel Macron par rapport à son gouvernement. Et puis on rappelle quand même que c'est le plus jeune chef d'État aujourd'hui en activité. Emmanuel Macron, il a 39 ans. Mais on rappelle quand même que Napoléon Ier a été premier consul à 30 ans. Donc c'est aussi un record à battre. Alors comment réagit l'Égypte à cette élection, Dina ?
Elle est très contente, l'Égypte. D'ailleurs, les Français qui vivent en Égypte, 90% des Français ont voté pour Macron. Même les Égyptiens, ils les ont encouragés à voter pour Macron aussi. Donc, on est content, mais on attend voir, bien sûr, les relations internationales, quelle sera son attitude ou ses idées pour les relations internationales, pour le terrorisme et tout ça. Et on espère qu'il y ait vraiment une coopération entre les deux pays pour combattre le terrorisme.
On va rester dans le sujet, mais avant, on va écouter une chanson marocaine que tu nous présentes, que nous a choisie Nadira.
La chanson marocaine que nous a choisie Nadira, c'est le jeune artiste marocain Faisal Azizi qui interprète Sahran Lil, traduction « Je ne ferme pas l'œil de la nuit ».
On écoute.
Écoutez Kantara, le magazine de la Méditerranée.
C'était une chanson marocaine. On reste au Maroc, toujours après l'élection de Emmanuel Macron.
Parmi les premières réactions après cette élection, celle du roi du Maroc, Nadir Abdelkhoutout, a interviewé Jawad Kardoudi, le président de l'Institut des Relations Internationales, sur les attentes des Marocains après la victoire d'Emmanuel Macron.
La campagne électorale en France a été très suivie ici au Maroc au niveau de plusieurs sphères médiatiques notamment. Quoi, à votre avis, cet intérêt pour les élections dans l'Hexagone?
Il faut rappeler que les relations entre le Maroc et la France sont très étroites, que ce soit des relations politiques ou économiques. 700 entreprises françaises, dont pratiquement toutes les entreprises du CAC 40 sont présentes au Maroc. Il y a une importante communauté française au Maroc et aussi une importante communauté marocaine en France. Et puis des liens culturels très forts. La langue française est très répandue au Maroc avec beaucoup de lycées français. Donc c'est tout à fait normal que le Maroc s'intéresse à ce qui se passe en France, avec aussi la question du Sahara, où la France a toujours soutenu la position du Maroc.
Jamais élu, Emmanuel Macron est désormais le 8e président de la 5e République. À 39 ans, il est également le plus jeune président de la République de l'histoire, ni de droite ni de gauche. Est-ce que cette non-appartenance idéologique sera ressentie dans les relations du nouveau président de la France, dans ses relations à l'international?
Effectivement, il n'a pas une longue expérience politique, mais depuis un an, il a créé un mouvement en marche, et puis surtout, il a réussi, et c'est ça qui est extraordinaire, à l'âge de 39 ans, il est très jeune, de battre les partis qui sont installés en France depuis des décennies. Et donc, il faut souligner d'abord le courage et la détermination de ce jeune homme, parce que c'est encore un jeune homme. Maintenant, il ne va pas gouverner tout seul. D'ailleurs, au mois de juin auront lieu les élections législatives, et bien sûr, il va présenter ses candidats, mais il y aura aussi les candidats de l'extrême droite, de l'extrême gauche, de la droite classique, du Parti socialiste. Et donc, en tant que Maroc, nous devons bien sûr suivre de très près ces élections et voir comment il va constituer sa majorité présidentielle. Et ça compte aussi dans la mesure où s'il gouverne avec la droite ou avec la gauche, ça pourra avoir des conséquences sur les relations avec le Maroc. Mais je suis confiant, moi je considère que les relations entre le Maroc et la France sont des relations d'État à État, établies depuis de très nombreuses années, avec des intérêts de part et d'autre très forts, et donc je suis confiant qu'il n'y aura pas de changement dans la politique de la France vis-à-vis du Maroc.
La confiance, voilà, ils sont confiants, en tout cas les Marocains, par rapport à cette élection, mais il faudra attendre les législatives, comme l'a dit fort justement le président de l'Institut des Relations Internationales. Mais bon, que ce soit en Égypte, que ce soit au Maroc et l'ensemble du Maghreb, cette élection de Macron fait l'unanimité, Dina.
Oui, moi je trouve que les pays arabes se sont penchés pour Macron parce que peut-être, comme on a vu entre les deux, si on compare, il est plus clément avec les pays arabes, avec les musulmans, et c'est pour cela que peut-être que c'est vrai que le monde arabe a soutenu Macron.
Et puis Emmanuel Macron avait déclaré pendant cette campagne que la colonisation c'était un crime contre l'humanité. Bon, en France avait beaucoup réagi, mais ça avait réagi également de l'autre côté de la Méditerranée. Allez, après ce sujet, on va passer à l'Égypte. Et concernant l'Égypte, tu nous as choisi une chanson un peu pour fêter un anniversaire d'une grande égyptienne qui était aussi une grande italienne et qui était aussi une grande française.
Voilà, c'est méditerranéen, disons. Alors, je vous propose d'écouter Dalida avec une très belle chanson en arabe, Ahsanes, qui parle de toute l'Égypte. Voilà, une balade en Égypte avec les peuples égyptiens.
Adina ben Dardesh, warana warana ben Hakki ben Farfish, warana ورانا ايه نحب نتعرف ورانا ايه نحب نتشرف ورانا ايه ومن يا بلدينا وبلدكو ايه احسن ناس سوهاج بلد المواويل سوهاج برج الزغاليل سوهاج يا حبيبي يا ابويا عالم شغال اصله المال رجالة جد وحمل جبال يا بلدينا بلدينا السهاج بلد المواويل سهاج برج الزغاريل على كوبري كوبري بنها يا نور عيني منديل حبيبي طرف عيني بعد الفراق والأشواق جمع الهوى بينه وبيني
على كوبري بنها على كوبري بنها
Nous étions en Égypte avec Dalida, nous y restons car le pape François a achevé le 29 avril une visite de 2 jours. Le pape a porté un message de paix et encouragé le dialogue interreligieux. Une visite réussie qui confirme le rapprochement entre le Saint-Siège et Al-Azhar et met l'accent sur le rôle géopolitique de l'Égypte. L'accolade entre le pape François et le cheikh Al-Tayeb a incarné le message de tolérance et de coexistence pour lequel plaident les deux dignitaires religieux. Cette rencontre a confirmé la solidité des relations entre Al-Azhar et le Vatican, qui s'était crispé après des propos controversés en 2006 du pape Benoît XVI, semblant associer l'islam et la violence. Al-Azhar avait gelé ses relations avec le Vatican depuis 2011. On écoute ton reportage, Dina.
C'est en grande pompe et sous un dispositif sécuritaire renforcé que le pape a été reçu en Égypte. Le long du parcours qu'a emprunté le pape François au Caire, des affiches géantes montraient le pontife sur fond de pyramides, lui souhaitant la bienvenue en anglais et en italien. Le pape François, pape du Vatican, a achevé samedi 29 avril sa première visite en Égypte, au cours de laquelle il a soutenu l'Égypte, consolidé le dialogue avec l'islam et réconforté les Coptes après les attentats terroristes dont ils ont été victimes. Le voyage du pape François est le deuxième d'un pape en Égypte, après celui de Jean-Paul II en 2000, qui avait également rencontré le grand imam de Lazare. Au cours de sa visite en Égypte, le pape François avait abordé plusieurs sujets à résonance particulière au Moyen-Orient et a assisté à plusieurs conférences, comme la conférence mondiale sur la paix qui s'est tenue les 27 et 28 avril au siège de la prestigieuse institution sunnite de Al-Azhar, réunissant 300 personnalités religieuses musulmanes et chrétiennes du monde entier. Cette conférence vise à sceller les principes de coexistence pacifique parmi les adeptes de toutes les religions sur la planète, affirme Dr Dalia Hosni, professeur à l'université de Al-Azhar.
Nous voulons par cette conférence adresser un message commun au monde entier pour appeler à la paix entre les responsables religieux, entre les sociétés et entre tous les pays du monde. En fait, la conférence a discuté de 4 sujets principaux. Les obstacles de la paix dans le monde contemporain, entre risques et défis, la fausse interprétation des textes religieux et son impact sur la paix au monde, l'exploitation de la pauvreté et la culture de la paix entre les religions. L'un des objectifs de cette conférence, c'est de positionner clairement l'islam dans son opposition à la violence et au conflit. Les terroristes voudraient démontrer qu'il n'est pas possible de vivre ensemble, mais nous affirmons le contraire. Pour atteindre ces objectifs, le dialogue interreligieux doit se traduire en des mesures concrètes permettant de répandre ces principes aux sociétés et surtout parmi les jeunes générations, dont certains tombent en proie au radicalisme à cause de la pauvreté et de l'ignorance.
Le pape a également participé à une messe au stade militaire de la défense aérienne au Caire. Ce rassemblement religieux visait à réunir devant le pape tous les rites catholiques du pays, notamment les églises coptes, arménienne, maronite et melkite, avec une liturgie en arabe et en latin. Betty Cassis, vous avez assisté à la messe du pape François. Quelle était votre impression?
Bien sûr, on attendait la venue du pape. J'hésitais d'aller au début parce que j'appréhendais un peu la chaleur, mais j'ai pas pu résister à l'événement et j'y suis allée et je ne l'ai pas regretté du tout. Il faisait bien sûr chaud, mais c'est passé. C'était tellement émouvant qu'on a pu tout supporter. Et rien qu'à le voir à une dizaine de mètres, c'était quand même très touchant pour nous. Et je suis très contente d'y être. La messe était très émouvante et j'ai senti une présence divine très, très forte.
Et vous n'avez senti aucune peur qu'il y ait des bombardements quelque
part?
Non,
jamais. Non, pas du tout. Pas un instant. Bien sûr, l'organisation au stade était parfaite. Vraiment, l'armée s'est donnée à cœur et la sécurité était parfaite. Rien qu'à voir vraiment la sécurité, il n'était pas question qu'il y ait quelque chose. Et puis, j'étais sûre qu'il n'allait rien faire à ce moment-là. Peut-être qu'il ferait plus tard, mais pas à ce moment-là.
Devant 15 000 personnes, le pape a estimé que l'unique extrémisme admis pour les croyants est celui de la charité.
La vraie foi est celle qui conduit à vivre la culture du dialogue, du respect et de la fraternité. C'est ce qu'a déclaré le pape François avec un message de paix et de tolérance qu'il a adressé au monde entier.
C'était ton reportage, Dina, avec deux mots-clés, la paix et la tolérance. Alors, tu as assisté à cette visite du pape François. C'était un moment fort?
Très fort. Vraiment, j'ai tenu à y assister, pas en tant que journaliste, mais en tant qu'invitée. Une invitée, une des Égyptiens qui voulait vraiment y aller. Et cette rencontre très, très importante était pour les chrétiens, pour les rassurer, qui étaient la cible des attentats terroristes il y a quelques jours avant la visite, et aussi pour les musulmans, pour montrer que vraiment il y a une certaine tolérance, une certaine admission que il y a une séparation entre l'islam et le terrorisme.
Il y avait du monde, Dina?
Oui, 25 000. Ils étaient 25 000 personnes. Vieux, des ados, des jeunes, tout le monde, vraiment, ils ont voulu y aller et ils ont commencé la journée à partir de 4 heures du matin. Ils devaient se rassembler pour aller au stade avant, bien sûr, l'arrivée du pape. Tout le monde est parti très tôt dans la matinée, ils sont descendus, ils sont restés au soleil, parce que le stade s'est ouvert, hormis la chaleur et tout, ils étaient très contents d'assister à la messe, de prier et de voir le pape.
En tout cas, voilà un voyage important qui scelle un peu plus les relations interreligieuses, et c'est ce qu'il faut faire. C'est peut-être la solution à tous ces drames et à toute cette violence et cet extrémisme que l'on connaît aujourd'hui. Allez, après l'Égypte, on va aller en Espagne. On va commencer avec Julio Iglesias, qui s'était pratiquement retiré, mais il a enregistré un nouveau disque avec des chansons mexicaines cette fois. Il est en compagnie, pour cette chanson que nous a choisie Iman Huanzar, du ténor Placido Domingo.
Vous écoutez Cantara, le magazine de la Méditerranée.
Et tu que te creías el rey de todo el mundo. Y tú que nunca fuiste capaz de perdonar, qué cruel y despiadado de todo te reías, o imploras cariño, aunque sea por piedad. ¿A dónde está el orgullo? ¿A dónde está el coraje?
¿Por qué hoy estás vencido? Mendigas caridad. Ya ves que no es lo mismo amar que ser amado. Hoy que estás acabado, qué lástima me da.
Maldito corazón, me alegro que ahora sufra.
Que llores y te humilles ante este gran amor. La vida es la ruleta en que apostamos todos.
Y a ti te había tocado nomás la de ganar. Pero hoy la buena suerte la espalda te ha volteado, fallaste corazón. No vuelvas a apostar. La vida es la ruleta en que apostamos todos.
Y a ti te había tocado no más la de ganar.
Pero hoy la buena suerte la espalda te ha volteado.
Fallaste, corazón. No vuelvas a apostar. Maldito corazón,
me alegro que ahora sufras, que llores y te humilles antes del gran amor.
La vida es la ruleta en que apostamos todos.
Y a ti te había tocado lo más de ganar.
Pero hoy la buena suerte la espalda te ha volteado. Fallaste, corazón. No vuelvas a apostar. Fallaste, corazón. No vuelvas a apostar.
C'était le grand Julio Iglesias avec Placido Domingo. Et on reste en Espagne, Dina.
Nous revenons sur l'affaire Castor, cette affaire qui fit courir beaucoup d'encre en 2013 et qui avait fait l'objet d'un reportage pour Cantara. Il s'agit d'un projet de stockage de gaz naturel dans une cavité sous-marine au large de la côte est espagnole. En septembre 2013, et après plus d'un demi-millier de secousses, dont certains de près de 4 sur l'échelle Richter, le gouvernement avait ordonné l'arrêt temporaire des travaux. La semaine dernière, une équipe d'experts américains confirme le lien entre le projet et les tremblements de terre et préconise de démonter la plateforme et de ne même plus essayer de récupérer le gaz injecté.
Une équipe d'experts vient de rendre son rapport sur le très polémique projet Castor, un projet de stockage de gaz naturel dans une cavité marine au large de la province méditerranéenne de Castellón. Un projet à l'arrêt depuis 2013 à la suite de tremblements de terre suspects et qui avait mis en émoi la région et particulièrement les habitants de Vinaros. Quelques 600 secousses dans une région pourtant peu sismique, devant la colère de la population et la mobilisation des habitants, le gouvernement prend alors la décision de stopper l'injection de gaz. Le ministre de l'énergie de l'époque, Manuel Soria, que nous vous proposions déjà d'écouter le 9 novembre 2013.
En qué supuesto el cierre será definitivo?
Dans quel cas la fermeture sera définitive? Eh bien, elle le sera en cas d'absence de pleine sécurité pour continuer les travaux d'injection de gaz tampon et de stockage de gaz.
Depuis, le ministre Manuel Soria a dû démissionner, mais pas en raison du projet Castor, plutôt because Panama Papers. Les experts américains de l'Institut technologique de Massachusetts et de Harvard sont catégoriques. Les séismes sont directement liés à l'injection de gaz et ils préconisent l'arrêt définitif du projet. Concernant le gaz déjà injecté dans la cavité, mieux vaut ne plus y toucher. Le maire de la localité de Vinaros, Enric Pla.
Que òbviament la situació de tranquil·litat en el no reobriment i en el no retomament de l'activitat gasística de moment pues, té que estar per damunt de tot això la seguretat dels habitants de Vinaròs i de la nostra comarca. I per tant nosaltres de moment pues, recolzem plenament que no es prenga ninguna decisió respecte a la reapertura del magatzem, ja dic, amb totes les cauteles que té que ser el llegir els informes corresponents.
Bien sûr, dit le maire de Vinaròs, la situation est de tranquillité devant la non-reprise de l'activité gazière pour le moment. C'était la revendication des habitants et de la région et pour autant nous espérons qu'ils ne prendront aucune décision allant dans le sens de la réactivation des installations de stockage sans les études correspondantes. L'entreprise ACS qui menait le projet a empoché pour l'heure 1 400 millions ou 1 milliard 400 millions en termes de compensation. Le contrat incluait une clause qui stipulait une compensation, y compris en cas de mauvaise praxis. Le démantèlement de la plateforme élèvera le coût de ce projet à près de 4 milliards et l'on ignore quels ont été ou seront les honoraires des experts américains qui ont en fait dit exactement la même chose que l'Institut géographique national et l'Institut géologique espagnol sont trouvés d'écho. Jordi Baiguet, le conseiller de la Generalitat de Catalogne chargé de l'entreprise.
El gobierno lo debía haber entendido antes de empezar las obras, porque si hubiera hecho caso de los informes y de las opiniones que había antes de empezar el proyecto, no lo hubiera llevado a cabo. Ahora el mal ya está hecho. Lo que queremos es que la repercusión del coste de lo que se ha hecho mal no lo tengamos que pagar el bolsillo de todos los ciudadanos.
Le gouvernement aurait dû comprendre avant de commencer les travaux parce que s'il avait tenu compte des rapports et des opinions exprimées avant le début des travaux, il n'aurait pas entamé le projet. À présent, le mal est fait. Ce que nous voulons, c'est que la répercussion du coût de ce qui a été mal fait, nous n'ayons pas à le payer de la poche de tous les citoyens.
Voilà, sage décision par rapport à ce projet Castor. Ce stockage de gaz provoque des tremblements de terre. Donc, c'est bien de l'arrêter. Mais en tout cas, il a fallu quand même qu'il y ait des experts. Il a fallu plusieurs années, depuis 2013, donc ça fait quasiment 4 ans pour arriver à cette conclusion. Donc voilà une bonne chose et je sais qu'en Espagne on était un peu inquiet. On en avait parlé dans Cantara il n'y a pas si longtemps. Allez, après l'Espagne, une chanson tunisienne que tu nous présentes.
On écoute le jeune chanteur tunisien Nour.
طاير بفكار وما يعيش ما يسوى ثانية تارك الماضي ومهاجر مثلي ورينا سايبة تتهان بالعيد أيام فانية هاجري بالذيل بريد
Tunisie avec ce chanteur Nour, et on continue car un hommage va être rendu, car la Tunisie vient de perdre un géant de la pensée théologique, Mohamed Talbi. Universitaire et islamologue, Mohamed Talbi est également un historien spécialiste du Moyen-Âge au Maghreb et l'un des penseurs les plus rigoureux et les plus audacieux de la réforme de l'islam. Il prônait une lecture vectorielle du Coran qui consiste à prendre en compte l'intentionnalité du livre saint et non pas les jugements émis à une époque révolue. Se définissant comme un penseur libre en islam, laïque, moderne et rationnel, il a consacré une grande partie de sa vie au dialogue entre les religions et les cultures et a axé les travaux de l'association qu'il a fondée ainsi que la trentaine d'ouvrages qu'il a publiés sur une approche de l'islam centrée sur le livre saint. Auteur de « Penseurs libres en islam »,« L'islam n'est pas voile, il est culte » et de « Ma religion, c'est la liberté »,« L'islam et les défis de la contemporanéité ». Mohamed Talbi est décédé le 1er mai à l'âge de 95 ans. Il a été l'un des invités de Kantara et avait accordé une interview à Maya Dassili sur l'islam et les droits de l'homme, l'islam et la violence et sur la notion du djihad. Nous écoutons un extrait de cette interview.
La violence n'existe pas dans le Coran.
Mais alors pourquoi justement des terroristes justifient des crimes par des convictions musulmanes ?
En se référant à la charia, ils ne se réfèrent pas au Coran. S'ils se référaient au Coran, ils verraient que les 114 sourates du Coran, sauf une, toutes les sourates, 113 sur 114, commencent au nom du Dieu, le matriciellement miséricordieux qui fait matriciellement miséricorde. Alors, comment justifie-t-il la violence ? En déclarant que tous les versets du Coran qui parlent de clémence, de justice, de pardon, sont abolis. Et il n'y a qu'un seul verset qui les a abolis. Tout. C'est le verset de la sourate 9, At-Tawba, le cinquième, qui dit qu'il faut faire un effort. Il ne dit pas tuer, hein. Il dit que tout musulman doit faire un effort maximum. C'est ça le djihad.
Oui.
c'est l'effort maximum au service d'Allah. Or, Allah est amour, il n'est pas terrorisme. Le verbe « ahabba », aimer, revient souvent dans le Coran. Dieu aime, il aime les hommes qui font le bien, d'une manière générale. Allah recommande la justice et la bienfaisance. Plus que la justice, il faut dépasser la justice par la bienfaisance. Voilà le Coran.
Par rapport aux droits et libertés, justement, professeur Mohamed Talbi, l'association œuvre justement pour la promotion de la culture des droits de l'homme, pour servir les valeurs humaines universelles, pour combattre la violence, comme vous avez dit, sous toutes ses formes et d'où qu'elles viennent, et pour défendre toutes les libertés fondamentales, de même l'égalité totale et inconditionnelle des deux sexes. Jusqu'où, justement ?
Jusqu'où peut aller la liberté. Nous défendons les droits de l'homme parce que nous les avons apportés au monde. C'est dans le Coran, les droits de l'homme. Mais tous les droits de l'homme versés à l'appui, on peut les mettre devant tout le monde. Avant, 1400 ans, avant l'ONU, le Coran a déclaré les droits de l'homme. Et le prophète l'a fait.
Et l'égalité inconditionnelle des deux sexes.
Liberté inconditionnelle avec cette limite. Votre liberté s'arrête ou commence celle de l'autre. Ce n'est pas la liberté de la jungle, c'est la liberté du droit.
En bon musulman, comment lutter contre l'islamophobie aujourd'hui ?
En donnant la vraie image de l'islam. Ne pas aider ceux qui disent l'islam est l'axe du mal. Nous devons, pour lutter contre cette vision de l'islam, dire d'abord aux chrétiens, ne mélangez pas une infime minorité avec plus d'un milliard d'hommes musulmans. Mais s'il vous plaît, lorsque vous parlez de l'islam du Coran, parlez de l'islam de la justice, parlez de l'islam qui dit « Idfa billati hiya ahsan, fa idha alladhi baynaka wa baynahu, adawatun ka annahu waliyun hamim. » Répondez au mal par le bien. Un point tel que votre ennemi devienne votre ami intime. Pourquoi ne pas mettre en valeur ce verset coranique ?
Répondre par le bien au mal, c'est un peu une philosophie que l'on peut que partager, hein, ma chère Dina, avec les paroles sages de cette grande, immense personnalité tunisienne qui vient de nous quitter, Mohamed Talbi.
Oui, bien évidemment, quand on perd une personne pareille, c'est une grande perte, puisqu'elle pourrait encore donner de sa science et de sa vision, et elle peut changer des idées, elle peut aider à changer, à vraiment changer le discours, changer les idées, changer les interprétations.
Et la sagesse donc de ses propos, c'était une interview qu'il nous avait accordée il y a quelques mois, et notamment à Maïla Lassiki. Allez, un petit cadeau pour toi, Dina. C'était ton anniversaire il n'y a pas si longtemps. Donc, je te propose une chanson de Pokora, qui est une reprise d'une chanson de Claude François, qui s'intitule Alexandrie, Alexandra.
Voile sur les filles, barque sur le Nil. Je suis dans ta vie, je suis dans tes bras. Alexandra. Avec l'ami, j'ai plus d'appétit qu'un barracuda. Je boirai tout le Nil si tu ne reviens pas. Je boirai tout le Nil si tu ne retiens pas. Alexandrie,
Alexandrie,
Alexandra,
Alexandra,
Alexandrie, où l'amour danse au fond des bras. Ce soir j'ai de la fièvre et toi tu perds de froid.
sa vie. Je suis dans tes bras.
Merci Thomas, j'ai bien aimé.
Allez, comme chaque semaine, notre agenda, et on commence par l'Espagne, dans une semaine plongée dans les fêtes madrilènes de San Isidro, Tauromachie, Kermesse et Grande Ripaille. Madrid se redécouvre pour ceux qui n'aiment pas les corridas. C'est le moment de faire un tour dans la ville et déguster las rosquillas à l'anis, au citron. À Séville, la Feria de Abril range ses lampions et dit au revoir et dit à l'année prochaine.
En 1977, l'antenne d'Héliopolis de l'Institut français d'Égypte inaugure une présence au service de la diversité culturelle et linguistique dont elle fête cette année les 40 ans. Une naissance, une persistance, un mouvement culturel intense. À cette occasion, une soirée sera organisée le 25 mai. Au programme, discours d'accueil, concours karaoké entre les trois sites de l'Institut français d'Égypte et l'Alliance française de Posaïd, apéro, dînatoire, spectacle de danse et DJ.
Une grande première à souligner cette semaine s'est tenue à Ajaccio, la première édition du Festival des cinémas du Maghreb. Ce festival était organisé par l'Association populaire des Tunisiens de Corse. Les films et documentaires sélectionnés ont abordé les thèmes comme l'émancipation de la femme, l'histoire de la colonisation ou encore la problématique des harkis. L'objectif de ce festival est de mieux faire connaître les civilisations des cinq pays du Maghreb. Avant de se quitter, Dina, il faut rappeler que Kantara est une coproduction.
Eh oui, une coproduction de Radio Le Caire, Radio Extérieur d'Espagne, RCFM, chaîne Interrabat, Alger chaîne 3 et Radio Tunis, chaîne internationale.
Alors n'oubliez pas de jeter un œil sur notre page Facebook pour y retrouver nos reportages ou pour écouter ou réécouter votre Kantara. Voilà, c'est fini. Merci à tous d'avoir suivi ce nouveau numéro de votre magazine de la Méditerranée. Au revoir Dina.
Au revoir Thomas. Merci. À la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.